Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, Asialogie va aborder l'histoire du Vietnam.
Oui.
On change d'un petit peu de région.
D'accord.
Alors, le Vietnam, c'est un pays qui commémore cette année les 50 ans de la fin de la guerre. La dernière guerre, celle oui. contre les Américains.
Bien sûr.
Et puis, en deuxième partie de ce 32e épisode, oui. Didier, tu vas nous parler du jade. Ça va bien avec le Vietnam,
c'est
le
ça,
jade.
Ça va être un peu plus précieux ce soir.
Voilà. Oui, tu vas être précieux, comme le jade, qui est une pierre sacrée et symbolique. C'est ce que tu vas nous raconter.
Exactement. Donc, avant d'aborder l'histoire du Vietnam, Corinne, est-ce que tu peux déjà nous planter le décor et nous dire quelques mots sur sa géographie et son climat, s'il te plaît?
Oui, on en avait parlé à la première saison un petit peu du Vietnam, mais on y reviendra. Le Vietnam, c'est le pays du peuple Viet du Sud. Nam, hein, ça veut dire Sud et
d'accord.
Viet. Peuple okay. Viet du Sud. Il a la forme d'un dragon allongé sur 1650 km, mmh. avec une grande diversité de paysages et de climats.
Ouais.
Il partage sa frontière avec la Chine au nord, avec le Laos et le Cambodge à l'ouest, et est bordé à l'est et au sud par la mer de l'Est ou la mer de Chine méridionale.
Mmh, moi, ça me fait rêver tout ça.
Ah ben oui, tu vois, ça nous fait rêver, ça va faire rêver nos
exactement,
auditeurs aussi.
J'espère.
À la mer de l'Est. Alors, il y a trois grandes régions au Vietnam. Le nord, anciennement le Tonkin, et avec des montagnes, des hautes montagnes hein, et des hauts plateaux, des saisons très contrastées. Mmh. Il y a le centre, l'anciennement l'Annam, zone ouais. de montagnes longées de plaines côtières étroites avec un climat tropical et des typhons, ouais. avec la végétation qui va avec, bien sûr.
Mm-hmm.
Et le sud, qu'on appelait la Cochinchine,
eh oui.
une vaste région très fertile grâce au delta du Mékong.
Ah,
Alors le climat y est tropical toute l'année et le centre et le sud sont des zones de moussons, de typhons, mais okay. aussi de moussons.
D'accord.
Alors c'est un pays qui n'est pas facile à contrôler par sa géographie, sa végétation dense et son climat. C'est pour ça que c'est important de planter le décor pour la
oui,
suite.
Bien
ça
sûr.
A quand même posé des problèmes aux colonisateurs.
je crois que ça leur a posé voilà. quelques soucis. D'accord. Bon alors, Corinne, le décor est planté,
oui.
on est au clair. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de son histoire qui fait aussi partie de la nôtre, en fait? Ça commence comment?
Alors, l'histoire du Vietnam est marquée par l'alternance de périodes de domination étrangère,
ouais.
de lutte pour l'indépendance, de conflits internes et mmh. de résilience. Alors, c'est comme toutes les histoires, mais je pense que les Vietnamiens, c'est quand même un peuple qui s'est particulièrement révolté.
Ouais.
qui ne s'est pas laissé faire.
Mmh.
Alors, les premières traces de civilisation remontent à la préhistoire, hein, 20 000 ans avant Jésus-Christ, et les débuts de l'agriculture sont estimés à 2 000 ans avant Jésus-Christ, donc une longue, longue histoire.
Ouais.
Et l'apparition des dynasties est datée vers 700 ans ouais. avant Jésus-Christ,
d'accord.
avec le développement du royaume Van Lang, dirigé par la dynastie légendaire des Hung.
Hung, d'accord.
Qui ont peut-être c'est peut-être ce mot-là qui a inspiré le mot « un » par la suite, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Alors, puis est arrivé le temps de la domination chinoise. Et là, tenez-vous bien,
oui.
du 3e siècle avant Jésus-Christ à 938 après Jésus-Christ.
Ah oui.
Soit 12 siècles, 1200
marque.
Ans, si j'ai bien
d'accord.
calculé.
Okay.
Mais oui, ça marque, Didier.
Ça doit marquer, effectivement.
Ah, c'est énorme d'avoir été dominé, colonisé,
ouais.
assimilé presque, mmh. presque, je oui, le dis oui. bien, par les Chinois hein, du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 938 après.
Mmh.
Alors, c'est en 179, c'est dur, là, avant Jésus-Christ,
oui.
que le général chinois Zhao Tuo a fondé le royaume de Nam Viet, déjà,
oui.
qui deviendra à partir de 111 avant Jésus-Christ,
oui.
une province chinoise,
d'accord.
tout simplement.
Mm-hmm. Okay.
Alors, ce sera bien sûr 12 siècles de forte sinisation, on s'en doute.
Oh, j'imagine.
Avec l'introduction très importante des caractères chinois,
oui.
du confucianisme mm-hmm. et de l'administration impériale.
Bien sûr.
Quelques bonnes choses quand même.
Oui, oui, bien sûr.
Et le tout au détriment des traditions locales et des élites vietnamiennes, ça c'est une
j'imagine
moins bonne
bien
chose.
Aussi.
Alors pendant ces 12 siècles, le Vietnam va donc vivre sous influence.
D'accord.
Et ça a laissé des traces indélébiles dans sa culture.
D'accord.
Encore aujourd'hui.
Alors attends, 12 siècles, c'est quand même un petit peu long. Et
oui.
Les Vietnamiens ne se sont pas révoltés pendant tout ce temps?
Mais si. Il y aura plusieurs révoltes au cours des siècles. Je ne vais pas rentrer dans le détail du tout, parce qu'il y en a eu beaucoup.
Okay.
Mais il y a eu notamment celle des sœurs Trung. Alors là, je ne sais pas si je prononce bien, un peu, beaucoup, je ne sais pas.
Là, moi, je ne contredirai jamais sur les prononciations.
Alors c'était de 40 à 43 après Jésus-Christ, donc ça fait quand même un moment.
Oui.
Et les sœurs Trung sont des icônes de la résistance vietnamienne, encore aujourd'hui.
D'accord.
Donc il y avait Trung Trac et Trung Nhi.
Mmh.
Elles étaient des figures légendaires et sont devenues les symboles de l'indépendance nationale et de la résistance. Alors, elles étaient de jeunes aristocrates du Nord-Vietnam.
Ouais.
Leur père était un chef local et leur mère une femme influente qui leur aurait appris les arts martiaux et la stratégie militaire. Et Trung Trac, l'aîné, était marié à un noble nationaliste, vietnamien bien sûr, qui sera exécuté pour avoir protesté contre les abus des Chinois.
Ah.
Et c'est ça qui va pousser les deux sœurs à se révolter.
Ça a dû les mettre un peu en colère, je comprends.
Voilà, elles étaient vraiment en colère, les deux sœurs. Et puis en plus, elles étaient très intelligentes.
Mm-hmm.
Hein. Et donc, elles vont rassembler une armée composée de femmes et de paysans.
Oui.
Et elles vont remporter plusieurs victoires et vont réussir quand même à chasser les Chinois du Nord-Vietnam.
D'accord.
Et à la suite de cet exploit, elles vont se proclamer reines du Vietnam.
Ah oui.
Mais en 43, c'est-à-dire à peine 2 ans après, les Chinois vont contre-attaquer et les sœurs Trung seront vaincues.
D'accord.
Et selon la légende, elles préféreront se suicider plutôt que d'être capturées. Mmh. Elles sont donc toujours un symbole du patriotisme vietnamien et elles ont des temples à leur nom et leur histoire est enseignée dans les écoles. C'est une vraie histoire. C'est certain. Et elles ont inspiré d'autres révoltes au VIe siècle, mais plein de révoltes qui n'aboutiront pas.
Mmh.
Il faudra attendre le Xe siècle, en 938, pour que le Vietnam retrouve son indépendance avec le général Ngo Quyen.
D'accord.
Donc on va écouter Duyen Phan, qui est une chanteuse vietnamienne d'aujourd'hui.
Oui.
Contemporaine, ou c'était celle qui va nous chanter du twist?
Ah, je vous laisse découvrir.
On va découvrir.
Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bây em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời. Trong tình yêu như thế nào, sông sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngàn nồng sâu.
Alors un peu de musique et de chansons vietnamiennes, ça nous change un tout petit peu d'habitude.
Oui, mais je trouve ça très beau. C'est une grande,
c'est
une chanteuse très connue, Duyen Phan.
C'est joli, c'est vrai.
Oui.
C'est très très mélodieux. Alors, du coup, Corinne,
oui.
Revenons, par contre, sortons de la chanson, et revenons vers le Vietnam, qui s'est donc libéré des Chinois en 938, alors, si j'ai
oui.
bien compris.
Après
qu'est-ce qui s'est passé
après 12
ensuite
siècles, j'insiste.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh oui, eh bien, le Vietnam est devenu indépendant pendant plusieurs dynasties.
D'accord.
Et il vivra une période de stabilité et de prospérité avec la dynastie Li, L-Y. Mmh. Mmh. Entre 1009 et 1225 après Jésus-Christ.
D'accord.
Et il y aura ensuite la dynastie Tran qui va régner jusqu'à 1400.
Ouais.
Et la dynastie Tran, donc les Chinois se tenaient tranquilles. Hein,
ouais.
Ils avaient donné là.
Ouais, c'est bien.
Ils avaient sûrement des problèmes en interne.
Ils avaient autre chose à faire.
Voilà. Voilà. Bien sûr, parce que il y avait les invasions mongoles de qui de Kubilai Khan.
Bien sûr.
Et donc, ils vont les repousser, les Tran, les Khan.
Ouais.
Mais à partir de 1407, c'est les Ming qui sont
d'accord,
arrivés.
Okay.
Ils sont restés longtemps. Hein,
oui.
C'est l'avant-dernière dynastie, les Ming, en
d'accord.
Chine. Donc, ils vont renverser la dynastie Tran et s'installer de nouveau au Vietnam.
Allez,
mais
partie.
Pas pour longtemps.
Ah. Ah,
pas pour longtemps.
Pas
parce
pour deux
que,
siècles, en tout cas.
Non, pas du tout. Les Vietnamiens ne vont pas se laisser faire.
Mm-hmm.
Et en 1428... Le Loi va fonder la dynastie, enfin c'est pas Le Loi, c'est Les Loi,
ouais.
fondera la dynastie Les postérieure qui va régner jusqu'en 1789.
Ah, tiens, c'est
donc
marrant.
Ça a été tranquille. Oui, c'est marrant
c'est
la date.
C'est une date qui nous dit quelque chose.
Exactement.
Ouais, d'accord. Alors, j'ai bien une idée de ce qui s'est passé en
ah bah
France
chez
à
nous,
cette époque-là,
oui.
mais il s'est passé quoi à cette date bah, là-bas alors
bah, presque pareil, Didier.
Ah, oui.
C'est ça qui est troublant.
D'accord.
Il y a eu entre 1771 et 1802 la révolte
oui.
des Tyson. De Tyson.
D'accord.
Et des Tyson,
ouais.
menés par les trois frères Nguyen. Hein, ça parle les noms
ah,
là.
Oui.
Hein.
Oui, ce nom-là,
et
oui.
cette révolte a profondément transformé le Vietnam. C'était presque déjà le début de la révolte, des révoltes futures.
Mm-hmm.
Et c'est un mouvement paysan qui est parti d'un village qui s'appelle Tyson, qui est un village du centre du pays.
Ouais.
Et cette révolte, bah, elle est née en réponse à la corruption et aux lourdes taxes imposées par les chefs locaux.
Ouais.
Voilà. Et donc les rebelles vont exploiter la division du pays, marquée par une guerre entre les clans. Il y avait les Trin au nord et les Nguyen au sud,
ouais.
mais d'autres Nguyen. Ah, parce qu'il y a, plusieurs,
y a
plusieurs clans qui okay. s'appellent Nguyen.
D'accord.
Voilà, donc il y a un des frères, des trois frères, des révoltés, des rebelles,
ouais, ouais, ouais.
qui s'appelle Nguyen Huy, qui va vaincre les Trin du nord.
D'accord.
Et en 1788... profitant d'une invasion des Qing,
oui,
chinois,
oui.
un destiné à soutenir la dynastie de Les Loi,
oui.
Nguyen Huy va se proclamer empereur
ah oui.
et remportera une victoire éclatante contre l'armée chinoise en 1789.
Oui, ça bougeait pas mal aussi là-bas. Hein.
Ça bougeait, c'était la révolution
d'accord,
aussi.
Okay, d'accord.
Mais malgré ces succès, donc les rebelles, les Tyson, sont finalement renversés par Nguyen Han, qui était le dernier survivant de la dynastie d'une lignée Nguyen.
D'accord.
Et c'est lui qui va unifier le Vietnam et fonder la dynastie Nguyen en 1802.
1802.
Voilà, donc c'est un petit peu confus les histoires des
Nguyen.
Oui, il
faut suivre, hein, c'est sûr.
Mais bon, il y a eu une révolte importante, cette
je
révolte
comprends.
De Tyson, avec donc un nouvel empereur qui va en 1789, qui se fera chasser, et ce sera la dynastie des Nguyen
okay, okay, okay.
en 1802.
Alors, du coup, là, ça veut dire qu'on arrive quasiment à la période moderne, et j'imagine,
oui.
pas loin de la colonisation française alors.
Bah, exactement, Didier. Bah, on sait qu'à cette époque, hein, les Européens se disputaient l'Asie
oui,
un
ça,
peu partout.
C'est
hein.
clair.
Et depuis plusieurs siècles, ils essayaient de s'implanter au travers de l'évangélisation et des échanges commerciaux.
Mmh,
on est en début du 19e. Là,
mmh.
hein. Et la France avait donc de nombreuses raisons pour coloniser le Vietnam.
On
était déjà un petit peu partout à cette époque-là
ouais, hein,
dans le monde. Et donc... Les ressources naturelles, bah, c'était le caoutchouc.
C'est ça.
Et puis surtout, la main-d'œuvre bon marché.
Eh oui.
Et la France voulait aussi étendre son influence en Asie en mettant en avant sa vision civilisatrice.
Eh bien, bah, tiens.
Alors, cette colonisation s'inscrivait dans un projet plus large d'empire colonial et de position stratégique.
Bien sûr.
Ça nous manquait, cette
ouais,
partie du
sûr.
Monde. Alors, la colonisation française du Vietnam débutera donc en 1858, sous Napoléon III, On était partout à cette époque, hein, même jusqu'au Mexique.
Oui, c'est vrai.
Et donc ça va commencer par une expédition militaire pour soi-disant protéger des missionnaires catholiques. Ça, on l'a déjà aussi entendu.
C'est souvent. Celle-là.
C'est souvent comme ça.
C'est ça.
Et après plusieurs affrontements et signatures de traités, bah, l'Indochine sera créée, ouais. Regroupant le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ça, c'était l'Indochine.
Okay.
Le Vietnam du Sud, la Cochinchine, deviendra une colonie en 1867,
d'accord.
Gouvernée par un Français. Il y avait un gouverneur français. Et le reste du pays, donc l'Annam et le Tonkin, sera placé sous protectorat et gouverné par les autorités locales, comme
d'accord.
le Laos et le Cambodge.
Okay. Bon.
Voilà.
Alors le pays a dû subir une grande transformation avec l'arrivée des Français quand même, j'imagine.
Oui, les Français vont exploiter les ressources agricoles et minières, riz, caoutchouc, il y avait du charbon.
On a l'habitude de coloniser pour profiter des ressources.
Voilà.
C'est mon Dieu, très d'actualité tout ça.
Oui, exactement, exactement. Et on a quand même développé des infrastructures modernes là-bas, bah, pour exploiter aussi le riz et le caoutchouc, il fallait aussi des infrastructures, bien
c'est
sûr.
Ça.
Et on a aussi exploité le peuple vietnamien pour faire tout ça. Qui sera marginalisé et exclu du pouvoir. Alors, dès le début du XXe siècle, il y a des mouvements d'opposition à la colonisation qui vont émerger, comme celui du Parti communiste vietnamien fondé par Ho Chi Minh en 1930.
On va en reparler.
On va en reparler.
J'imagine.
Mais ça, ça sera la semaine prochaine.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup ?
Eh oui, la Seconde Guerre mondiale, elle a eu lieu, bien sûr, au Vietnam aussi.
Aussi, bah oui.
Alors, à cette époque-là, bah, il était sous domination française.
Oui.
Mais en septembre 1940, le Japon va envahir l'Asie. Enfin, l'Asie, la Chine, etc. Hein.
Bien sûr.
Il ne faut pas oublier qu'il était déjà en Corée.
Mmh.
Et il va envahir toute l'Indochine. Il sera partout.
Ouais.
Et il voulait, en fait, couper les ponts entre la Chine et l'Indochine. Les ponts qui permettaient à la Chine de s'approvisionner.
Bien sûr.
Alors, le régime de Vichy va collaborer avec les Japonais pour garder le contrôle colonial.
Mm-hmm.
Mais en mars 1945, le Japon va renverser les autorités françaises. Ça, on n'en parle pas beaucoup.
D'accord.
Pour proclamer, c'est les Japonais, un Vietnam indépendant sous l'empereur Pao Dai.
Ah oui.
Le dernier empereur vietnamien.
C'est ça.
Et qui a été leur marionnette.
Oui, j'allais dire, ils n'ont pas fait ça comme ça. Bonté d'âme.
Non, mais l'empereur Pao Dai, il était, je dirais, vraiment sous emprise, on peut le dire.
Hein.
Il avait les pieds et les mains liés.
Mm-hmm.
Alors, parallèlement, le Viet Minh, le mouvement nationaliste et communiste, dirigé par Ho Chi Minh, va organiser la résistance contre l'occupation japonaise.
D'accord.
Et après la capitulation japonaise en août 1945, le Viet Minh va prendre le pouvoir et proclamer l'indépendance le 2 septembre 1945. Ce que la France n'acceptera pas.
Eh oui.
Voilà. Et cela va initier en 1946 le début de la guerre, d'abord contre la France, puis contre les États-Unis. Alors la victoire vietnamienne à Dien Bien Phu force la France à signer les accords de Genève en 1954. Qui va mettre la fin à près d'un siècle de colonisation.
Avec une guerre, avec des Français. Et je fais un petit hommage à mon oncle qui a été en Indochine, qui a combattu là-bas.
Il y a beaucoup
parce
de Français qui sont
allés là-bas. L'histoire se rapproche de nous et de
et
nos familles.
Et oui, bien sûr. Et elle se rapproche de nous parce qu'il y a eu aussi beaucoup de migrations en France. Et de migrations, je dirais, faites en temps de paix aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
Ho Chi Minh a fait ses études en France, ne l'oublions pas. Mais
d'accord.
Nous en reparlerons.
Ceci est une autre histoire.
Voilà. Donc, un siècle de colonisation française.
Okay.
Et moi, je vous recommande de revoir le film oscarisé de Régis Varnier qui s'appelle Indochine avec Catherine Deneuve.
Ah oui.
Ça nous raconte cette époque. C'est un superbe film.
Oui, j'adore.
Et ça nous replonge bien dans l'atmosphère.
Et c'est très beau.
Et c'est un très beau film.
C'est très, très beau. Ouais.
Voilà. Donc là, on se fait une autre pause musicale,
oui.
Didier. Là,
oui.
Je pense ne pas me tromper.
Hein,
c'est Les Kien.
Oui.
Et je pense que c'est un petit peu années 60 comme ambiance.
Oui, oui. On change d'ambiance.
On change d'ambiance.
De salle. C'est reparti.
Oui.
Đường về canh thâu, đêm khuya ngang. sang anh điện câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ màng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vững chờ mong. Chia tay ai đâu sóng vắng im lìm, ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm. Mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm, đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng câu ru mến chiều.
Oui, c'était Lee Ki-yen. Un petit côté Dalida quand même, je trouve.
Ah
hein.
Oui, d'accord.
Bon, Didier, parle-nous de cette magnifique pierre, oui. Le jade, un des plus emblématiques symboles de l'Asie.
C'est ça. En fait, alors, le jade. Donc ça, je pense que ça doit parler à peu près à tout le monde, le jade. Une pierre semi-précieuse qui possède plus que d'autres pierres une valeur culturelle, historique et spirituelle.
Oui, bah oui, c'est clair.
Le jade, il est connu, utilisé depuis des millénaires en Asie. Le jade fait partie de la famille des silicates, une roche sédimentaire, et existe sous deux formes principales, très difficiles à distinguer par les non-initiés. Il y a la jadéite, aux couleurs variées, plus rares et précieuses, principalement trouvée en Birmanie, et la néphrite, plus répandue, extraite en Chine, elle, et en Russie, au Canada. Toujours verdâtre, la couleur de la jadéite varie du blanc laiteux au vert émeraude, en passant par le jaune, le bleu lavande, le noir, cela grâce à la présence en fait de sels métaux comme ceux du chrome, du cobalt, du fer.
Oui, donc il y a du métal dans la pierre.
C'est ça, la teinte.
C'est ce qui donne la couleur de la jadéite.
C'est ce qui lui donne sa couleur. La teinte est plus prisée vers le vert impérial, hein, celle qu'on connaît particulièrement appréciée en Chine à l'origine. Le jade est blanc.
D'accord. Ouais. Alors, on retrouve du jade dans d'autres parties du monde ?
Oui, il a marqué, en plus de l'Asie, d'autres civilisations comme celle des Mayas, des Aztèques en Amérique centrale, voilà, qui était considérée, elle était considérée comme plus précieux que l'or. Hein. Il servait à orner les masques funéraires et les bijoux des nobles. Il symbolisait aussi les dieux et les esprits. Il était aussi censé favoriser la fertilité et protéger des maladies.
Alors, quelles sont ses propriétés en détail ? Parce que j'imagine qu'il a des qualités particulières.
Oui, bien sûr. Alors, selon Confucius, il représente la pureté et la vertu. Il symbolise aussi l'immortalité et la protection des esprits. On a retrouvé beaucoup d'objets et d'amulettes de jade dans les tombes des empereurs, en fait. Le sceau de jade signifiait le pouvoir impérial durant toutes les dynasties. Le jade est aussi associé à diverses croyances. Il apporterait paix, sagesse et harmonie à ceux qui le possèdent.
Donc, il faut en porter.
Voilà. Le jade est une pierre protectrice. Elle éloignerait le mal et attirerait la chance. On l'utilise aussi en lithothérapie, car ça renforcerait l'équilibre énergétique et améliorerait la santé. Et c'est toujours l'idée qu'on a du jade aujourd'hui. Hein.
Alors, est-ce que ça coûte cher, le jade, Didier ?
Oui, ça peut coûter cher, oui. Le jade est très cher, mais son prix, il varie en fait en fonction du type de jade. Hein. C'est la jadéite, le vert impérial, qui est le plus rare, donc la plus précieuse et la plus chère.
D'accord.
Elle provient principalement de Birmanie, ce qu'on a dit. La néphrite, elle est beaucoup plus courante et donc beaucoup moins chère, mais on peut en faire de très belles sculptures et de beaux bijoux tout de même, quoi. Alors, le jade est classé en trois catégories. Le type A, naturel, non traité, qui est le plus cher. Le type B, il est blanchi chimiquement et imprégné de résine, un peu moins cher. Et le type C, il est teinté artificiellement. Alors lui, il est forcément beaucoup plus abordable.
Ouais. Alors, donc c'est très difficile de s'y retrouver quand même.
Oui, pour nous qui sommes pas vraiment néophytes, c'est compliqué. Pour les prix, un bijou en jade de qualité moyenne, faut compter quelques dizaines à quelques centaines d'euros. Un bracelet, par contre, en jadéite de haute qualité peut aller jusqu'à 1000 euros à plusieurs milliers d'euros.
Hein. Oui, quand même.
Certaines pièces exceptionnelles ont été vendues aux enchères pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Hein. Le jade d'excellente qualité est une des pierres précieuses les plus chères au monde. Acheter de la néphrite peut être un bon choix, en fait, hein, pour faire un beau cadeau, mais un peu moins cher.
Oui. Oui, on peut se faire plaisir.
Voilà, c'est ça. Je pense que nous, on verra pas trop,
on
la différence.
On verra pas trop la différence. Alors, est-ce qu'il existe des pièces célèbres?
Alors,
des
oui,
pièces de jade célèbres.
Il y en a beaucoup, hein. Notamment les sceaux impériaux des empereurs chinois dispersés à travers des musées du monde. Ils sont souvent en jade blanc. On connaît aussi le disque bi, un objet rituel de forme circulaire avec un trou au centre. Cet objet a été utilisé lors des cérémonies religieuses et est associé au ciel. Certains exemplaires gravés sont aussi conservés dans les musées comme le musée du Palais à Pékin. Et ils sont... Inestimable. Hein. Alors à Taïwan aussi, il y a une pièce qui est devenue une icône culturelle, c'est le chou en jade. C'est une des pièces les plus emblématiques du musée national du palais à Taipei. Elle est sculptée dans un bloc de jade vert et blanc, puis représente de façon très réaliste un chou chinois avec des sauterelles et un criquet qui sont symboles de prospérité et de fertilité. Elle date du XVIIe siècle et auparavant, elle aurait appartenu à une impératrice. Et c'est une petite statue, attention, hein, de 18 cm sur 9 cm et 5 cm de hauteur. C'est un tout petit chou, oui. Mais la pièce, est la pièce la plus incroyable, c'est le Bouddha de jade de Mandalay en Birmanie. C'est une sculpture colossale, attention, de 3 mètres de haut, pesant 20 tonnes, taillée dans un bloc, seul bloc de jade.
On imagine que celui-là, il n'a vraiment pas de prix et c'est strong. Pas facile de le voler.
C'est ça, ça va être compliqué.
Zoologie, c'est fini Didier, c'est fini les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous réécouter samedi matin à 9h30 et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com.
On compte sur vous.
On compte sur vous jeudi prochain à 12h et toujours sur Radio Alpa.
Avec
Bonne
autant
semaine.
De plaisir, on vous retrouve la semaine prochaine. À très
Salut
bientôt.
Salut à tous.